Araga, dirigé par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga na fi da'at galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie, elle fait appel à la rue qui la interpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
Et c'est une revue de presse halal sur des sujets haram.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, M'sa ala Rabia hatta sa'a sadisa. Bonjour, Azoul, salam. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025. J'espère que vous allez bien. Avec tout ce qui se passe en Algérie, je me demande comment, vous les Algériens, vous pouvez vivre avec ce régime analphabète, sanguinaire, hypocrite. Et j'en passe. Je parle du régime de militaire de la Corée du... de l'Algérie. Mais je m'excuse. Donc, de Shingiriha, voilà. Oloha direct. Bon, passons aux choses sérieuses. On va commencer par écouter des témoignages de la guerre d'Algérie. Après, il y aura des surprises. C'est promis, El Khawa. Hagdaya, allez, bonne écoute.
بونضية ولد الحرام بصح بالكل سونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك تفوت تستر قاع بونضية ولد الحرام بصح بالكل سونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك تفوت تستر وليد الحرام 5% وليد الحرام 5% تيبو خدام شهرية عساس ولا بلونتون وليد الحرام 5% وليد الحرام 5% تيبو خدام شهرية عساس ولا بلونتون يضل يشلوش في الدنيا باش يطلع في لي زيشلون اتيو يا وليد فاميليا راك لحقت ال 20% كاع بونضية ولاد الحرام بصح بالبورسونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك تود ستاج تصيبو شيف بيرسونيل لابد عليه يكون ميشون لازم يشم تقاح الكل وليد الحرام 30% تصيبو شيف بيرسونيل لابد عليه يكون ميشون لازم يشم تقاح الكل انسي فون 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 شيادي بلاكوري بل انسي فون 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 شيادي بلاكوري بل قعبو مليا ولاد الحرام بالبلسونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك والتستاج تلفزيون بي دي جي تحت يدو الخدامة من البيض ويديريجي وليد الحرام 50% قابرها بي دي جي تحت يدو الخدامة من البيض ويديريجي شياتين عندو عرمة سحب الرقدة وتمونجي هكذا ضاعت الأمة وهكذا كلاو كاع البيجي أبندية وليد الحرام سحب الكونسونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك وتستاج ايا كاع ولاد الحرام وسحب الكونسونتاج وليد فاميليا لابد عليك وليد الحرام 99% راس بق كاع الاولين اليوم رجع بريزيدون وليد الحرام 99% راس بق كاع الاولين اليوم رجع بريزيدون مازال واحد اهي الفايقين اللي عنده 100% شكون هو طول مون دوفين هو اللي كتب هاد لا شونسون ابونديا وليد الحرام بصح بالبورسونتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليك والتسطاج طول مون وليد الحرام بصح عليك و تو المونت يلا لاي لاي يلا
Algériens et Français, ils racontent leur guerre d'Algérie. Ils s'appellent Ami Slimane, Jean-Paul, François, Fatima, Houaria, Hadda, Ami Ahmed. Ils sont Algériens, Français. Quand les événements éclatent en Algérie, ils avaient à peine 18 ans. Ce qu'on appelle alors indigènes aspirent à mettre fin à 132 ans de colonisation française. 60 ans après la fin de cette guerre, 100 ans, ils ont accepté de se confier à nous. Ils ont fouillé dans leurs valises à chagrin pour nous confier leurs souvenirs. Appelés harkis, soldats de l'armée de libération nationale, ALN, bras armés du Front de libération nationale, FLN, messalistes, ils nous racontent l'horreur des combats, la torture, la peur, mais aussi leur volonté d'apaisement. Ami Ahmed avait 16 ans à l'époque, lorsque ses parents l'envoyaient en France pour combattre la colonisation. Voici son histoire, témoignage recueilli par Kamar Edir pour Radio Galère.
Ami Ahmed, vous m'avez, cette fois-ci, vous m'avez sollicité, mais pour quelle raison ?
On a déjà parlé du FLN. Qui, bon, la FLN, quand on nous a amené à Tuissi, à Saïdia, on est resté quelques temps. Et après, on a permuté avec le premier bataillon, il est redevenu Saïdia. Et nous, جويت في جبل عصفور هذا.
On est du côté marocain.
Marocain, du côté marocain, oui, bien sûr. Oui. Parce que de l'autre côté, c'était les Français. Oui, oui. Et alors, شنو انا نضحك على الناس اللي يقول لك الجنود في الحدود وكذا وداروا وداروا داروا الاولين وي سي فري سي فري بصح كي لحقت 61 و 60 هذيك يا كومونسي افوار دي ديزيرسيون انورم دي ديزيرسيون تاع تاع بالاخص سي بارتيكوليرمون لي جون كي زون ايتي انرولي après la déclaration de Farhad Abbas qui dit je vais mobiliser 100 000 personnes au Lawashan, ça a été fait. Ils ont mobilisé une centaine de jeunes partout, des jeunes très bien gars, très bien. Je ne dis pas la moitié, j'exagère. Mais énormément de genoux, ils avaient déserté l'armée Tana. Harb. Contrairement, parce que s'il y a un hommage à rendre aux genoux et aux combattants algériens, c'était ceux de l'intérieur, les canoufs de l'intérieur. Donc, même si les canoufs de l'intérieur, ils sont rendus. On a à la frontière. Ils ont harb. Qui juste éclair. Qui garde l'istiqlal, cessez-le-feu, même avant le cessez-le-feu, une semaine ou la 10 jours avant le cessez-le-feu, et ils ont envoyé la police interne, si tu veux, ils ont été rassemblés tous les déserteurs, donc, ou là, sans aucune condamnation, sans rien du tout, où ils nous ont rejoints, ou là, comment les Mbad, ils sont devenus tous des gendarmes, les gadouf l'armée, gadou, ou les ouleaux gendarmes, ou les ouleaux sécurité militaire, ou les ouleaux. Déjà, le choubth, ou en quelqu'un. D'accord, des déserteurs, trajaham sécurité militaire. Et pourtant, j'en ai connu. J'ai au maïa, à Alger, sous mes ordres, fait à d'accord. Ahmed,
ancien missaliste.
On a des camions d'Algérie. Des grands camions. Maintenant, je me posais la question, qui fait ça? Fait France, 99% d'Algériens, au moins 90% d'Algériens, quand fait Fakar Kibir, qui fait que vous voulez les camions, c'est l'entreprise de l'autre. Ce qui fait que quand on a ce qu'il y a, qu'on a un autre qui a France, ou chez le camion, ou chez le camion. Bon, c'est un autre volet d'année. La chose. في الزغنغن ولاو كان حتى اللي عاد يجبدوا في الخيوط تاع التريسيت ينحيو يكسروا في الواحد ويوري لي في هلا الحقرة هذه يا خوتي علاش حنا فرنسا خلات لنا كلش وحنا في المغرب اللي عاوننا وكذا كي جينا مروحين والله خلينا لهم الحيوط تاع لي كازرن واقفين وحدهم لا حد لا تاقة لا هذيك وكل عمرهم في الكامو تبهديلة وما يكذبوا علينا الجزائر خلات والجزائر ما عرفاش كذا يساك دخلنا الجزائر حسبنا في روحنا في الماريكان دخلنا الوهر دخلنا لا بريمير فيل اللي فتناها هي تلمسان انا في امتي تسكالا تلمسان دبر لي تحس في روحك في الاوروب العباد تاع تلمسان هذو كانوا كل بوغوس دي بلون تو سا دخلت انا في هذاك الوقت كنت كيف دخلت قلت له بونجور مسيو رد لي بالعربيه والله تقول الماني دارير لو الكونتوار ورك في الضعف كيف هذا بعد مشينا البدو هذه بوسوي في لا ميتينري دو بوسوي ثم اللي عرفت انا الكابيدان شابو سمع به شابو هذا كابيدان شابو بعد il est devenu commandant ou met quoi quel accident de d'hélicoptère ou là ou je ne sais pas quoi c'était mais on a fait mais quand France d'accord c'est un Algérien très bien بعد il est devenu commandant ou met quoi quel accident de d'hélicoptère ou là ou je ne sais pas هذاك وين سيتي ما نعرف ما كانش معنا في الجيش ما نعرفوش في الجيش انا بصح وقيلا كان مع فرنسا داكور بصح يا خويا سيتي انا الجزائري هاك
الور يكومونسي ان افون مارش قلت تبن صاب دير ان دي ان دي اي بور دير ان دي 3 4 صاب دير قلت تبن خبزه كسره وطاس البن صاب دير ان دي 3 4
ما دي سليمان دي لو سيربون personnage haut en couleur rencontré en 2006 sur le cours Belzins toujours en tenue militaire la poitrine bardée de décorations Ami Slimane a apporté son témoignage aux émissions Radio Galère, Mémoire de guerre d'Algérie. Notre prise de contact a débuté par une méprise, me prenant par un FLNiste partisan du FLN, le parti au pouvoir en Algérie. Ces supplétifs algériens de l'armée française, cet ancien combattant ombrageux et suspicieux, a commencé par me rabrouiller. J'ai mis une année à gagner sa confiance. Notamment grâce à l'intermédiaire de Kader Leblanc. Ancien missaliste, partisan de Messali Hadj, pionnier de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, Ami Slimane est doté d'un fort caractère alternant chaleur humaine et violence verbale. Son portrait orne la couverture du livre « D'une rive à l'autre, des vies fragiles ». À force de nous entretuer, nous finirons un jour à ne parler qu'en mort, lâche-t-il, amer, lors d'un de nos entretiens.
L'opération Oiseau Bleu, c'est une opération d'intoxication. Il y avait à l'époque un commissaire à Paris, il y avait un Algérien de Kabylie, de Alsace, que tout le monde le sait, le connaît, il s'appelle Hachish Tahr. Alors, ça a commencé de 55, début 55, jusqu'à la fin 56. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'ils ont dit qu'on va faire un contre-maquis. Des faux maquis, des vrais faux maquis. Et le monsieur Hachish Tahr descend à Zezga. Il parlait avec un vieux militant, très grand vieux militant, qui lui a dit, nous, ce crime, il l'a interrogé, il lui dit, alors, ce crime, Bilgesm, qui est commandé par ici, le Felaga, il lui a dit, oui, c'est lui, crime Bilgesm. Il lui a dit que nous, on peut, moi, je vous garantis de l'argent, des armes impeccables. Et puis, nous, on arrivera. Pourquoi les Français avec leurs blindés, avec leurs ça, rien du tout, pas rien. Mais nous, on peut les anéantir. Il lui a dit, laisse aux Français, ils ont l'argent, ils ont tout. Il lui a dit que l'argent, il y aura de l'argent, il y aura des armes, les tenues et tout. Mais toi, tu me donnes la liste des gens. Alors, ce monsieur-là, c'était un gargotier. Il a prévenu Mohamed Yezouren, un chef de Qasma de Azazga, Gallo Hagdagda, et lui, il a parlé avec Krim et tout ça, et tout ça. Ils ont marché. Il lui a dit on va lui fournir des gens formidables. Ils lui ont fourni des gens. Des gens. L'argent, il a commencé à arriver. Il arrivait d'Alger. L'argent, la tenue, des tenues, de tout. Et c'était le journaliste Alain, le chef du journal d'Alger, Alain de Sérigny qui les amène comme ça dans une voiture civile pour qu'on ne voit pas l'armée. Ils ont commencé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont arrivés presque à 1500. Ils sont payés par la France, tout ça, de l'argent, tout. La coule à flot, les armes, les tenues, tout ça. Et pour Et pour justifier l'injustifiable, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'il est les capture des prisonniers maintenant, il les assassine et puis les amène devant les Français, il leur dit, regardez, ah, voilà les félins, on les a liquidés. Et puis ça continue. Et ça continue. Jusqu'à ce qu'il y avait un peignoir. C'est un journaliste de l'ORES. Il leur a dit que on justifie les cadavres, mais les cadavres ne sont pas d'ici, ils ne sont même pas kabyles. Quoi? Alors ils ont commencé à se douter, la France a commencé à se douter, et tout d'un coup, ils ont accroché des chasseurs alpins. Ils ont mis au tapis au moins 60 chasseurs alpins. Leur prenant leurs armes et tout ça. Après, ils étaient obligés de partir, de rejoindre le maquis. Et voilà, ils ont été bel et bien blousés. La France était bel et bien blousée. Et comme par hasard, après, en 57, ils ont dit on va leur faire l'appareil. On va se venger. Comment ils ont vengé? Il y a le service secret français, il a fait un coup. Et tous les jeunes arabes qui ont rejoint la volée à Troyes, des universitaires et tout ça, ils ont envoyé des lettres comme quoi c'est des bleus qui travaillent pour la France. Tout ce qui ici lire et écrire, on les a passés à la tasse. Et c'est pour ça, au moins 3 000, le dernier avait le certificat d'études à l'époque. Il y avait des docteurs, il y avait des infirmières d'État qui sortaient des écoles françaises. Tous les Amérus les a liquidés. Et puis dans les années 70, ils ont fait une émission, il a dit qu'il y avait des militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, tout ça, ils ont dit comment ça. Ils parlaient, arrivés à Amérus, il y avait le chef de renseignement, Godard, il a dit que... Colonel Godard, il a dit qu'Amérus travaille pour nous, comment ça. Nous, en faisant l'opération jumelle en 1959, on a tué, on a capturé, mais on n'a pas tué 3 000 hommes. Lui, il a tué 3 000 hommes. Et c'est nous qu'on les a intoxiqués. Et le capitaine Léger, c'est lui qui a fait ça. Voilà le coup, à l'opération jumelle. Vraiment, c'était terrible. Et d'ailleurs, ça c'est historique. Amérus, après, il s'est rendu compte qu'il a été blusé. Il a envoyé une lettre d'insulte au général Massu et au général Salon. Il leur a dit que vous faites la guerre pour l'Indochine et l'Algérie. En 1940, en 34 jours, vous êtes aplati devant les Allemands. En 34 jours, les Allemands ont pris l'offensive le 10 mai, le 14 juin, ils défilaient à Paris. Et aujourd'hui, vous faites, avec vos blindés, vos les B-26, les B-27, avec vos avions, vous faites la guerre. D'ailleurs, en Indochine, vous étiez écrasés. Et maintenant aussi, ici, vous allez perdre. Et voilà, c'était vrai.
Alors, une question qui me taraude. Pourquoi on l'a appelé la Force K?
Qui?
L'opération L'Oiseau Bleu.
La Force K, oui. Kabyle. Okay. C'est ça? Oui, la Force K, c'était 1500 personnes.
Oui, mais d'abord, ils visaient plus les villageois. Ils voulaient regrouper tous les villageois. dans un endroit.
Bien entendu, il voudrait que, comme avec ça, il voudrait anéantir les amphis comme le coup de ça. Il pourrait. Il voudrait faire comme le chien qui a étouffé une guerrière, c'était les Anglais, en Malaisie, en 48. Ils ont fait exactement comme ça. Ils n'ont pas lancé l'armée, ni l'aviation, ni rien, ils l'ont fait comme ça. Des maquisards, des faux maquisards. Et ces faux maquisards, comment ça? Les faux maquisards, ils étaient maquisards vrais.
Habillés comme eux.
Ah bah, tout pareil.
Les moudjahidines.
Voilà, comme les moudjahidines. Et puis, ils l'aident là-bas, eux. Les moudjahidines, ils prennent l'argent au peuple. Ils mangent chez le peuple, mais eux, non. Eux, c'est l'État qui fournisse. Il arrive, il donne l'argent aux gens.
C'est le contrat qu'ils
font. Voilà.
Pour les appâter.
Bien sûr. Et puis, il leur parle, il leur dit que, par exemple, ils ont fait comme ça. Eux aussi, ils ont fait comme ça. Ils auraient, s'ils l'ont fait, s'ils auraient dû retirer l'armée, laisser ça, ils auraient réussi. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Il arrive, ils lui disent. Ils savent, ils leur disent, bon voilà, par exemple, lorsque tu manges chez quelqu'un, l'hospitalité arabe, c'est comme ça. La femme, c'est comme ta soeur, sa femme, il ne faut pas la toucher. Tant que il y a des maquisards qui font, tout le monde dit c'est ça. Alors les gens, ils disent, d'où ils sortent ces gens-là? Et après, il lui dit, bon ça va, allez, je te donne l'argent, tiens. L'argent à Gougou, lui dit, prends ça. Il lui demande pas ni renseignement ni rien. Le monsieur, il réfléchit, il dit, le salopard, il m'a baisé la femme, il demande à manger, ils égorgent les gens, alors ils ont raison, ces gens-là. Alors il va les vendre. Voilà le coup. Les Français, ils se sont mal pris. S'ils ont fait comme les Anglais, ils auraient étouffé le maquis. C'est moi qui te le dis.
Il paraît que Kerim Belkacem, il n'était pas d'accord avec Amir Roche de tout ce qu'il faisait, parce qu'il savait sur l'affaire l'oiseau bleu aussi,
non,
la bleuie.
Mais après, il est parti, je te dis, Kerim Belkacem est parti de la... Il ne faut pas mélanger de ça. Kerim Belkacem est parti en 57. En 57, il a quitté la Kabylie. Il est resté Mohamed Saïd.
Ouais.
Et c'est lui le chef du wilaya, Amir Roche. Alors Amir Roche. Voilà. Il l'a accepté. Kerim Belkacem l'a accepté. Celui qui n'a pas. Il n'a pas aimé ça, c'est Omar Omran. Omar Omran, le sergent Omran. C'est lui, il a dit que ça va tourner allègre, ça. Ce coup-là, ça va tourner allègre. Et c'était ça. Tandis que Kerim Belkacem, pourquoi il a convoqué Amir Roche pour aller en Tunisie, en 59. C'est pour s'expliquer sur ça. Sur le massacre qu'il a fait, tout ça, de la bleuie, tout ça. Voilà le coup. Vraiment, Kerim était d'accord. Il n'y a que Omar Omran qui a pas aimé ça. Voilà le coup. Qui dit le contraire, c'est ça? D'ailleurs, c'était noir sur blanc. Ils ont convoqué Amir Roche pour l'interroger sur le coup des bleus. Et c'était le coup des bleus, c'était les Français qui l'ont... Parce qu'avant, ils se sont vengés sur l'oiseau bleu. Voilà. Mais... Ils se sont bel et bien vengés, il n'y a pas je dis. Et puis, lui, il faisait ça. Et pourquoi ils ont lancé l'opération Gemelle? C'est De Gaulle qui l'a dit qu'il faut la base.
C'était en quelle année?
C'est en
1959.
Juste après, ils ont dit que parce que... Écoute-moi bien, il a massacré les chasseurs alpins, les appelés, là. Une embuscade à El Metn. Tu connais El Metn? C'est un petit Kabylie du côté d'Akboul. C'est vrai. Là, il massacrait beaucoup de chasseurs alpins. Alors De Gaulle, il a dit, tous les autres, les opérations, pierres précieuses, tout ça, c'est 6 mois, et la Kabylie, c'était 9 mois. Il cherchait à battre Amirouche. Parce qu'il a dit que ce type-là, les insultés, il leur a dit qu'en 1940, tu connais le coup, vous n'avez pas tenu en 34 jours, vous avez pas baissé le pavillon devant les Allemands et tout ça. Ah ouais. De Gaulle lui-même, il a dit que c'était vrai, le type, il était très renseigné. Alors il faut l'abattre. Ils ont réussi à l'abattre. Et à l'époque, si tu vois les actualités, ils étaient de fous de joie. Ils ont cru qu'ils ont gagné. En abattant Amirouche et Silhouas.
Et toi, quand tu l'as abattu, tu étais où? Dans quel côté?
Qui?
Quelle région, toi?
Qui, moi? De quelle région?
Oui, quelle région?
Moi, j'étais à Alcantara, dans les Aurès. C'est là où il est un, de Mustafa Ben Boulaïd. Les Chaouiers, ils arrivent. C'est la route. C'est la route de Biskra.
Ouais.
Voilà. De Betna en allant vers Biskra. Tout le monde ici, ça. Les gens, les vieux qui. Ils savent qu'on a fait sauter, c'est nous qu'on a fait sauter le train plein de Sénégalais, en avril 58. Mais ils ne parlent pas parce que cette région-là, c'est une messaliste.
Il y avait beaucoup de soldats sénégalais dans l'armée française. Hein.
Bien entendu, c'était rempli. Rempli. J'étais stationné à. Ils montaient de. Des permissionnaires, ils montaient de Biskra vers Constantine. Eh bien, le train, il a été dit, sauté, là. Il était couché sur la voie. Tout le monde, ici, du coup, là. Ils ont perdu beaucoup de Sénégalais. Bien sûr, il a amené même des Vietnamiens.
Ah ouais?
Oui, des Vietnamiens d'Indochine. Ils se sont battus à Guelma et tout. Et voilà l'oiseau bleu. C'est ça, l'opération Oiseau Bleu. C'était les Français qui ont fait ça. Après, eux, et lorsque les Français se sont rendus compte, eux, ils ont abattu, ils ont tué, le, ils ont tué le type, Hachish Tar, avec un rafale. Après, ils ont rejoint le maquis.
Hachish Tar, son rôle, c'était quoi? Il travaillait pour qui, pour Hachish Tar?
Moi, je t'ai parlé... Hachish Tar, c'est lui, c'est eux qui ont... C'est lui que j'ai en parlé. Je t'ai dit, Hachish Tar, c'était un commissaire à Paris qui l'a envoyé pour former un maquis. C'est lui le chef. Et c'est lui que... Jacques Soussel lui donne l'argent et les armes. C'est Hachish Tar. Et Hachish Tar, il dit... C'est lui le chef du contre-maquis, Hachish Tar. Si tu connais des vieux de Aziz, tu peux leur dire. Il paraît que c'est une grande famille, Hachish Tar, là-bas. Voilà. C'est lui. Il voudrait faire un faux maquis, quoi. Avec lui. Il est venu de Paris. Arrivé à Alger, le gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soussel, il lui a débloqué tout. les finances, les armes, tout, tout. La solde pour les maquisards, tout, pour le fonds maquis. J'étais 1500. Un régiment complet. Tu te rends compte? Mais seulement les autres, ils étaient sur leur garde. Pour les cadavres, c'est les troupes MENA qui payent. Les prisonniers MENA. C'est pas diabolique, ça. Il apporte ça, il leur dit, voilà, on est là. Pour bien justifier l'injustifiable, ils étaient obligés, chapeau ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé. Voilà tout ce que j'ai à dire. C'était un coup formidable. Un coup très formidable. C'est l'oiseau bleu. Le seul que les ont fait, c'était les Anglais l'ont fait en Malaisie. Ils ont réussi à gagner 10 ans. Ils ont mis 10 ans, mais ils ont capturé tout le Makassar. Et c'était une guérilla bien organisée, mais les Anglais, ils étaient malins. Ils n'ont pas employé ni aviation, ni blindé, ni rien. Des faux maquisards. وسعد يا بشيخي جاء وجابوا البابور الغربي هم سمعوا الاخوان وجو هم جو على محبة ربي ابري الاخرين يربوا يا عبد القادر سلطان الوالية اركب فيه بالمفتاح وحل البيب انا عليا
اللي يملي يبليه بالهجرة من اللي ذيق الحب معذرة جاي حدون النظارة مهزوه رياح زفرة يا سيدي يساح ولقطه رايها يومك تيب لي سيرة السفرة قلت جو لحد ما شهرة ساح ولقطه يا وهاي فوق البيدان عاملة يا يقولوا لحباها رايها صفر قطاس نازل الفقرة والجولة تنبيه للذكرة وتزيد اليدمار يا رزقي نادي والمهاجرة انا مثلي عذاري حلو بي الاقدام بالهجرة تصب تجريبة النهر عرجة في نوارة يا طالع ذبي ونسيت مهاجرة سيدي يخرجوا لبكاها رايهم يوم الجمعة لسواحل البحر بالآلة وغايمة الغطرة حافوا للزخار يرشوا في مدينة سلوان زهرة يا ياك مرقولة بنات ذا الزيارة وجيها من بغى يزور هنا وتشوف ضلع برق مرقود فراتنا البحورة قالوا نزهى وبالجهرة مرقود برا من القصورة هيفات صغاها رائها صاروا بالزين عوان الصلحة ضرة كل غزالة فات القمرة وطلع الغرارة يا مرقود بكساوي للمعبرة Thank you. صالوا بالزينة وين الحضرة كله زلفت يوم مرة وطلع الغرارة يا مرقب بك سوي للمحضرة يا كشفيت قماه وخدين تلوح بلا كرة الشيمة والخان والشفرة والعينين كبارة وسوالفهم بمسوك ضافرة وخاطر حمد المجنون السكري وحمد الله مبارك سيدي إباح وبسناه أخضر عقلي ما لظل صبرة دون خلاقي شبت بالبصرة تبعتهم للدارة وخذايا ومنكوني بالعشرة يا بين ونجدا يا هنغيرا وظهر حسنهم وعم اشتهرة عند الشيلي في قبة النصرة ريق فوق سجارة فوق أسفين البحر زخرة يا بزو لبنات بالتيارة وبقيت من الجفان دورة قلت لهم حلة البشارة عمر اللي شيق مالبور قالوا لي زيد بالجهارة تزهي يا عاشق البذور قربنا تخضايه يا رائها مين انت يا في قبائل الحضرة قلت لهم مفسيح بالجهرة عربي من الحرار وترابي به جثاس ظهرة سيدي قالوا لي تنزايه اشتفى يا للغرب والنصر مولي بهجت فاس والشبرة مثلك ما يهجارة اتوالم لينا في المجاورة
Cheikh Hamada, de son vrai nom Mohamed Gouaïch, est né vers 1889 dans la Daïra d'Ain Tadlis, dans la plaine des Touahriya, à une quinzaine de kilomètres de Mostaganem. Il est l'un des fondateurs du mouvement de musique Gasba. En 1926, il enregistre son premier disque, ce n'est qu'en 1932 qu'il enregistra plusieurs disques en Allemagne, où il fit la rencontre célèbre avec le grand artiste égyptien Mohamed Abdel Wahab. Il faudra remonter à l'histoire des tribus zénètes, berbères et juives qui peuplèrent l'Algérie bien avant la conquête des Turcs et la colonisation française et le décret Crémieux ensuite. En fait, Cheikh Hamada est le chantre éternel du chant bédouin, avec son ami Hajj Al-Anqa, durant les dîners philosophiques avec les poèmes et les musiciens. Il avait pris l'habitude d'échanger et de travailler ensemble leurs poèmes. Hommage à Cheikh Hamada. À chaque fois, je revis le drame au fond de moi. Dans la rue d'Aubagne, à Marseille, le traumatisme des effondrements. Le 5 novembre 2018, trois immeubles de la rue d'Aubagne, à Marseille, s'effondraient dans un nuage de poussière, faisant 8 morts parmi les résidents. 6 ans plus tard, nous avons retrouvé sur place quelques-uns des témoins du drame. Ils vivent avec le poids du souvenir et l'espoir que la justice détermine les responsables. You Gotta Move de Olivier Knight, fiction radiophonique. Dans ses réalisations cyniques, le texte n'est jamais écrit de manière classique. Ses projets mêlent littérature, musique, live, théâtre, art, graphique et cinéma. Rock et culture, bien sûr. Dans le but d'élargir le public habituel des théâtres à de nouveaux publics curieux d'expériences inédites, la qualité du son et de l'image pour Olivier y sont souvent médiocres. Beaucoup de choses sont à améliorer. Il dit « J'en porte l'entière responsabilité car j'ai été longtemps opposé à la captation d'un spectacle, théâtre et vidéo étant incompatibles par nature. Mais la mode étant au petit clic, je dois m'y résoudre car il est difficile de rencontrer des partenaires de production qui prennent le temps de lire un projet, un texte dans son ensemble. » Olivier Maltenti pour Radio Galère dans l'émission Haraga. Fiction radiophonique Yugo Tamov de Olivier Knight.
Novembre 2018. Omar est réveillé en plein milieu de la nuit par des bruits inquiétants dans la cage d'escalier. Il entend des craquements, comme si les murs de son immeuble gémissaient. Quand il se décide à aller voir ce qui se passe dans le couloir, sa porte est bloquée. Pris d'un début de panique, il la pousse très fort et réussit à sortir sur le palier. Là, il découvre une large fissure qui court tout le long du mur jusqu'aux tomettes. Sa première pensée est qu'une petite secousse sismique a provoqué ces dégâts. Il descend à toute vitesse les 4 étages jusqu'au corridor où les pavés de verre au-dessus de la porte d'entrée ont explosé. La porte d'entrée de l'immeuble ne s'ouvre pas non plus. Et pour sortir dans la rue, il doit nettoyer les débris de verre et de plâtre qui la bloquent. Il pleut beaucoup, mais tout est calme. Omar remonte chez lui en traînant les pieds. Des pensées se bousculent dans sa tête. Il y a 3 semaines, les locataires de son immeuble avaient été évacués suite à l'effondrement de l'appartement du premier étage. Au-dessus des boîtes aux lettres, les marins-pompiers avaient accroché une longue banderole de signalisation. Installation sous tension, danger de mort. Quelques heures après l'évacuation, après que l'entreprise mandatée par le syndic avait consolidé le plafond effondré, les 10 locataires avaient été autorisés à rentrer chez eux. Cela faisait presque 3 semaines et tout était resté dans l'état. Danger de mort. Ces mots étaient comme un signe. En un flash, le refrain d'un vieux blues lui revint. Et Omar se mit à chantonner « You got to move » de Fred McDowell. Oui, il était plus que temps. Omar devait bouger, car son immeuble allait vraiment finir par s'écrouler. Et ce ne serait pas à cause d'un tremblement de terre. Omar regarde de nouveau les lettres blanches qui se détachent sur le fond en toile plastique rouge vif. Installation sous tension, danger de mort. Il sourit malgré lui, comme si quelqu'un pouvait être assez fou pour mettre la main dans l'installation électrique avec tous ces fils enchevêtrés qui pendent à nu. Depuis la première évacuation, et malgré les travaux effectués, Omar avait l'impression que ses murs bougeaient. Et maintenant, les fissures de plus en plus nombreuses apparaissaient, comme si l'immeuble, pareil à une personne en fin de vie, râlait de trop de souffrance et allait sans tarder finir par rendre l'âme. De retour dans son appartement, Omar reste longtemps le téléphone à la main, sans pouvoir se décider à appeler le 18. Mais comme tout semble calme, les voisins dorment, Omar se dit qu'il s'inquiète, peut-être pour pas grand-chose. Il raccroche le téléphone et se dit qu'il attendra à l'heure d'ouverture des bureaux du syndic pour les prévenir. Omar habite depuis plus de 10 ans rue d'Aubagne. Son appartement est un 2 pièces avec 2 fenêtres donnant sur la rue. Il habite au 4e et avant-dernier étage. L'immeuble, complètement pourri, à côté de celui d'Omar, avait été préempté par la ville de Marseille il y a 10 ans. Elle en avait muré tous les accès pour éviter les squatteurs et le laisser pourrir. Le toit s'était écroulé, des plaques de plâtre de la façade continuaient à se décrocher et à dégringoler sans que la mairie n'ait jamais sécurisé cette portion de trottoir. Omar évitait toujours de passer en dessous. Il préférait traverser la rue pour emprunter le trottoir d'en face. Depuis qu'il avait emménagé dans ce vieil immeuble décrépit de la rue d'Aubagne en plein quartier Noailles, Omar n'avait eu que des problèmes. Des infiltrations d'eau venant du toit, des problèmes électriques et des inondations des caves à cause de l'eau qui remontait des égouts par capillarité. Que des problèmes pour les locataires et des propriétaires qui s'en foutaient dès l'instant que les locataires payaient leur loyer. Incapable de se rendormir, Omar se passe en boucle ce vieux blues qui vient du delta du Mississippi et qui dit « Tu dois bouger ».
You got to move. You've got to move, shy. You've got to move. But when the Lord gets ready,
Omar se dit que lui aussi doit bouger, et de toute urgence. Le diamant émoussé de la platine vinyle a du mal à trouver le sillon, et le vieux disque rayé crachote. Omar doit s'acheter une nouvelle tête de lecture, mais ça lui coûterait au moins 30 euros. Et s'il doit se trouver un nouvel appartement, il a intérêt à dépenser le moins possible. Alors il se contente du son pourri que crachent ses enceintes, en espérant que le diamant abîmé n'endommage pas trop ses précieux vinyles. Omar possède une collection de disques de blues impressionnante. Toute sa vie, il en a acheté. Il aime le son du vinyle et n'a jamais acheté de CD. Au début de chaque mois, dès qu'il touche son salaire, il se commande aux USA un import introuvable en France. Et tous les samedis matins, il va chiner au marché aux puces des Arnavaux pour essayer de trouver une perle rare manquante à sa collection. Omar loue son appartement 480 euros par mois, plus 80 euros de provision de charges. Il se demande à quoi peuvent bien servir ces charges, car le ménage n'est jamais fait et aucune rénovation n'a jamais été entamée. Le syndic doit se gaver. Il n'y a pas d'autre explication. L'immeuble entier avait été racheté il y a 12 ans pour une bouchée de pain par une société de gestion de biens immobiliers proche de la mairie de Marseille. Un par un, les 10 appartements avaient été revendus à des petits propriétaires qui, avec le crédit d'impôt, la défiscalisation, le faible taux de crédit que leur accordaient les banques et les loyers qu'ils allaient percevoir, étaient persuadés d'avoir fait un bon placement qui ne leur coûterait aucun frais en entretien. Ces petits spéculateurs continueraient tranquillement à se constituer un joli parc immobilier. Mis à part les locataires, tout le monde était gagnant dans cette affaire. Avant que l'immeuble soit vendu, l'appartement d'Omar avait été longtemps squatté et s'était dégradé. Le propriétaire l'avait mis en location sans rien rénover. Omar ne voulait pas que son appartement ressemble à un taudis comme l'étaient les parties communes. Sans aucune compensation financière du propriétaire, il l'avait refait à neuf. Il avait réparé les fissures, refait l'enduit et les peintures dans chaque pièce, changé le bac de douche et modernisé la cuisine. Omar travaille pour une association loi 1901 conventionnée par les collectivités territoriales qui a pour mission de lutter contre le décrochage scolaire des jeunes. Il a été embauché il y a plus de 10 ans, mais il est toujours sous contrat à durée déterminée. Il travaille dans le quartier de la Belle de Mai. Ce quartier est classé contrat urbain de cohésion sociale. Il concentre beaucoup de problèmes. Taux de chômage élevé, pauvreté, environnement social détérioré. Tous ces facteurs, cumulés à un absentéisme lourd, engendrent un taux record de décrochage scolaire. Omar a en charge une quinzaine de jeunes. Le matin, quand il a enfin réussi à réunir son groupe dans une petite salle de l'association, il travaille aux apprentissages scolaires en étant parfois aidé par d'anciens enseignants à la retraite travaillant bénévolement. Les après-midi sont consacrés à des ateliers de pratique artistique et parfois au sport. Omar, aidé d'artistes bénévoles, initie les jeunes aux arts plastiques, au théâtre, à la musique et à l'écriture. Une des missions d'Omar consiste à aider les jeunes décrocheurs dans leur démarche. Notamment, il les accompagne dans leur parcours d'insertion. Quand le jeune prouve par ses progrès qu'il est prêt à réintégrer sa classe, ce retour se fait de manière progressive. Mais il lui faut parfois des mois avant qu'il ne retourne dans la classe. Pour son travail, et malgré son ancienneté, Omar est toujours payé au salaire minimum et ses frais lui sont rarement remboursés, même quand il doit se rendre à l'autre bout de la ville pour rencontrer les parents des jeunes, même s'il doit aller les débusquer dans leurs planques quand ils se volatilisent. Mais même pour le salaire de misère qu'il touche, Omar ne compte pas ses heures parce qu'il aime son métier. Et une de ses phrases favorites est « Le sourire d'un môme, ça vaut un steak. » Omar aime aussi sa rue d'Aubagne. Il en a toujours aimé sa mixité. Toutes les ethnies du monde s'y mêlent. Toutes les langues et toutes les musiques s'y côtoient. Sa rue est un immense jukebox de world music et de langues. Ces dernières années, sa rue avait changé et montré un autre visage avec le communautarisme et un début de gentrification dû aux opérations de spéculation immobilière. Depuis 10 ans qu'il y habite, Omar a toujours ressenti de la colère chez ses habitants. Mais elle ne les empêche pas d'avoir une certaine bonne humeur. Cette rue a toujours été un joyeux bordel permanent, non dénué de chaleur et de solidarité. Depuis quelques années, le bordel n'est plus vraiment joyeux. Les rapports entre les habitants se sont tendus. La tension et la frustration y sont palpables. C'est le résultat de la politique d'éradication des pauvres du centre-ville pratiquée par la mairie, qui laisse pourrir le quartier pour en chasser les pauvres, en espérant les remplacer par une population plus aisée et plus blanche. Il est maintenant 5 heures du matin. Son réveil va sonner dans 2 heures. Sa nuit est foutue. Autant veiller en écoutant sa musique à un volume assez bas. Omar repense à tout ce qu'il a dû endurer depuis qu'il a emménagé ici. Quand il s'est installé dans l'appartement, celui du dessus était inoccupé depuis des années. Le toit de l'immeuble fuyait et son propriétaire n'avait jamais voulu le réparer. Des infiltrations d'eau venant de trous dans le toit avaient inondé l'appartement du dessus, puis avaient fini par infiltrer aussi l'appartement d'Omar. Dans la cuisine, le plafond avait pourri et tombé par morceaux. À travers un trou béant, Omar pouvait apercevoir les poutres en bois typiques et les canisses. Omar appelle régulièrement l'agence immobilière pour qu'elle fasse les réparations nécessaires, afin qu'il cesse d'avoir ce trou au-dessus de la tête qui l'oblige à sortir des bassines les jours de pluie. L'agence immobilière ne le rappelle jamais. Une fois, Omar a demandé sa demi-journée et s'est déplacé. La secrétaire à l'accueil, assez méprisante, l'avait pris de haut. Mais quand il s'était énervé en lui montrant les photos de sa cuisine, elle avait quand même fini par lui dire qu'ils enverraient quelqu'un. Malgré les messages de plus en plus insistants d'Omar, il ne s'était rien passé pendant de longues semaines. Puis, un beau jour, le gestionnaire de l'immeuble avait quand même fini par venir sur place. Il avait constaté les dégâts impressionnants, les taches brunes et le trou dans le plafond, l'eau qui en ruisselait et les murs suintants d'humidité qui s'effritaient. Il lui avait dit qu'il en référerait au propriétaire de l'appartement du dessus, mais que de toute façon, celui-ci refuserait de payer. Il s'en foutait, car il avait plein d'autres appartements. Et les problèmes avaient continué. Un beau jour, la porte d'entrée de l'immeuble ne se ferma plus. Et puis ce fut le tour d'une des fenêtres, bloquée par une gouttière tordue. Il y avait une semaine, Omar s'était rendu à un rendez-vous à la DIL, une association qui informait et aidait les locataires en litige avec leurs propriétaires. Omar avait résumé ses problèmes à une conseillère et lui avait montré des photos qui prouvaient sa bonne foi. Ils avaient convenu d'un autre rendez-vous, cette fois-ci avec un expert juridique qui expliquerait à Omar la procédure pour intenter une action en justice. La conseillère, avant de partir, lui avait dit
« Vous savez, les petits propriétaires n'ont pas intérêt à faire des travaux de rénovation pour augmenter de quelques euros les loyers qui touchent déjà pour des taudis. Il est plus intéressant pour eux de continuer à louer leurs biens à des pauvres qui ne leur feront jamais de procès, faute de moyens. La justice devrait sanctionner les propriétaires et les syndics malhonnêtes. Mais elle ne le fait que de longues années après la constatation des délits. Je ne comprends pas pourquoi. La mairie a pourtant tous les outils pour faire appliquer la loi, comme l'injonction de travaux et leur exécution d'office. Si le propriétaire s'en fout, elle peut demander l'arrêt du paiement des loyers, voire même la confiscation du bien. Vous devez vous battre. Et nous sommes là pour vous aider. Mais je vous préviens, ce sera long. Bon, moi, à titre personnel, je vous conseillerais de partir. Car au vu de ce que vous me racontez, l'immeuble où vous vivez est dangereux.
Le réveil d'Omar sonne. Il est maintenant 7 heures du matin. Il n'a presque pas dormi. Et tous ces petits décrocheurs dont il a la charge l'attendent en pleine forme à la belle de mai. Ces mômes ont une énergie dévorante. Et il n'est pas question face à eux d'avoir l'air fatigué ou dans la lune, car ils le devinent immédiatement et c'est le why assuré. Omar écoute toujours le même morceau en boucle. C'est comme un mantra qu'il se récite. Oui, il doit bouger et sans tarder.
You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move.
Il se prépare une cafetière. pendant que le liquide noir s'écoule, Omar ne peut s'empêcher de repenser à la dernière évacuation des locataires 3 semaines auparavant. Pendant qu'il boit son café, le film de cette journée mémorable défile dans sa tête. Le 18 octobre, à 7h du matin, la locataire du second avait appelé le 18. Elle signalait l'effondrement du plafond dans le couloir du rez-de-chaussée et une fissure importante dans le couloir d'entrée. Un agent des services de la délégation au bataillon de marins-pompiers à la prévention et à la gestion des risques urbains se déplaça immédiatement et signala un écroulement dangereux au premier étage. Les pompiers avaient alors toqué à toutes les portes et ordonné aux locataires de quitter leur domicile.
On évacue l'immeuble. Vous avez 5 minutes pour vous habiller. Non, 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 madame, là, on ne prend rien. On sort tout de suite.
Un par un, les locataires avaient été évacués dans une nacelle des marins-pompiers. Omar s'était retrouvé de l'autre côté de la rue, avec tous ses voisins parqués derrière des barrières de sécurité métalliques. Tous très en colère.
Mais quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous? Et mes petits ne peuvent pas aller à l'école sans leur cartable. Oh, dans la panique, j'ai oublié de les prendre.
Le premier étage s'est écroulé. Le mur présente une grosse fissure. Apparemment, c'est grave.
Mais cela ne vous rappelle rien. Moi, j'ai l'impression de revivre la même scène du même film que l'année dernière.
Oui, me rappelle moi aussi. C'est exactement comme l'année dernière. Vous vous souvenez? Il y avait eu aussi un arrêté de péril imminent.
Et l'année dernière, on nous avait évacués pareil, en nacelle, à cause du même appartement qui s'écroulait.
Je me souviens très bien du jour. C'était le 9 janvier 2017. C'était le jour de mon anniversaire.
Et tu te rappelles l'explication qu'on avait reçue avec l'avis de loyer? Un dégât des eaux a fragilisé le plafond de l'entrée du bâtiment. Nous avons effectué les travaux nécessaires.
Oui, ils s'étaient dépêchés de faire des travaux vite fait, mal fait, pour qu'on rentre vite chez nous, et qu'ils ne soient pas privés de nos loyers.
Bande de rats! Et un peu plus d'un an après, ça recommence pareil, et pareil au même endroit. Tu parles qu'ils avaient fait des super travaux!
Ça a duré à peine un an. Et ça dégringole de nouveau. Et de nouveau, on se retrouve dans la rue, merde!
Les pompiers attendent l'expert. C'est lui qui décidera.
Il paraît que les propriétaires doivent prendre en charge notre hébergement à l'hôtel. Si on ne peut pas rentrer chez nous.
Mais tu parles, ces radins ne feront rien. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas tarder à les voir débouler dans leur grosse voiture.
C'est sûr que si ça s'effondre, ils vont se manifester. Alors que là, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds ici.
Oui, il n'y a que le fric qui compte pour eux. Alors si leur immeuble s'écroule, ils vont se radiner. Ces gros nullards de l'agence immobilière. Par contre, eux, ils n'ont pas encore montré le bout de leur nez. N'ont pas intérêt de se pointer. Sinon, je leur mets direct une gifle.
Ils l'auront bien mérité. Depuis le temps qu'ils se foutent de notre gueule, à nous accuser de vandaliser nos appartements, à nous culpabiliser, dès qu'il y a un problème. Comme si on était responsables. Alors que... ils ne font rien.
Ils n'ont jamais fait que dalle, à part toucher leur fric et augmenter leurs charges.
Tiens, voilà l'expert architecte. Il discute avec le capitaine des pompiers. La fausse blonde, elle travaille à la mairie de Marseille.
Oui, le type avec le beau costume et la cravate de travers, c'est le gestionnaire de l'immeuble. Tiens, j'aimerais bien lui dire 2 mots en privé à celui-là.
À un moment, l'expert architecte, la fausse blonde et le gestionnaire de l'immeuble, après s'être mis un casque jaune de chantier sur la tête, s'étaient tous engouffrés dans l'immeuble, précédés par les pompiers. Plus tard, le capitaine des pompiers était venu voir le groupe des locataires et leur avait dit qu'un expert était en train d'examiner l'immeuble, que cela allait prendre toute la matinée et qu'il ferait son rapport à leur bailleur de fonds qui les contacterait. Il ne leur avait rien dit d'autre et ne leur avait même pas proposé de les accueillir quelque part en attendant. Omar avait laissé ses voisins et était parti travailler. En sortant de son travail, vers 18h, Il avait consulté son répondeur. Il y avait un message du gestionnaire.
C'est OK, les réparations ont été faites. Vous pouvez réintégrer votre appartement.
Aucune formule de politesse, aucune excuse. Dégoûté, Omar rentra chez lui. Dans le hall de son immeuble, il y avait plusieurs documents scotchés au mur. Omar prit le temps de les lire avec attention. Le premier document portait l'entête officielle de l'expert architecte qui avait examiné l'immeuble.
La cloison séparatrice du couloir d'accès de l'immeuble menace ruine et constitue un danger pour les occupants. Le plancher de l'appartement du premier repose sur du bois très fortement détérioré par l'humidité. Sa stabilité est douteuse. Quant au dernier étage de la façade côté rue, il présente des fissures inquiétantes auxquelles il faut remédier sans délai. Les trumeaux et les allèges des fenêtres du dernier étage présentent des fissures structurelles importantes. Il y a péril grave et imminent. Liste de mesures à prendre. Que soient posés d'urgence des étais de bois en croix sur deux fenêtres du dernier étage de la façade. Qu'un diagnostic complet soit réalisé par un homme de l'art afin de mettre en œuvre d'urgence les réparations qui s'imposent. Les locataires ne pourront réintégrer leur appartement qu'après la mise en place d'un étaiement complet du rez-de-chaussée par une entreprise qualifiée et après vérification par un homme de l'art qui délivrera une attestation de conformité aux services municipaux de la direction de la gestion urbaine. En conclusion, demande d'évacuation des occupants de l'appartement situé au premier étage, car il court un péril grave et imminent.
Après le rapport de l'expert, Omar se pencha vers un autre avis scotché au mur. Celui-là portait l'entête de la mairie de Marseille et était signé par la délégation du maire de Marseille.
La mairie de Marseille interdit toute occupation et utilisation du seul appartement du premier étage. L'eau, le gaz et l'électricité devront être coupés. Obligation est faite aux copropriétaires de faire réaliser les travaux nécessaires d'urgence. La main levée de cet arrêté ne pourra être envisagée qu'après réalisation des travaux mettant fin au péril. Demandons des travaux de nature à garantir la sécurité. Les propriétaires doivent prendre immédiatement à leur charge l'hébergement des locataires, et ce, jusqu'à réintégration dans les lieux.
Omar se demanda comment ils avaient pu laisser les locataires de son immeuble réintégrer leur logement, alors qu'une expertise concluait à un péril grave et imminent. Le dernier papier scotché au mur était celui de l'entreprise BTP qui avait effectué les travaux dans la journée pendant qu'Omar était au travail et qui attestait que les travaux demandés par l'expert avaient été réalisés. Omar rentra chez lui. Sa vie reprit jusqu'à cette nuit du 5 novembre. Il est maintenant 8 heures. Avant de partir à son travail, Omar écoute une dernière fois « You got to move ». Puis, son parapluie à la main, il ferme sa porte derrière lui. Dans les escaliers, il croise sa voisine comorienne qui emmène ses petits à l'école. C'est une fois arrivé à son travail Comar apprit l'horrible nouvelle. Son immeuble et celui muré d'à côté s'étaient écroulés à 9 heures du matin. Il ne faisait aucun doute qu'il y aurait de nombreuses victimes. Omar fonça rue d'Aubagne. Les deux immeubles n'étaient plus que des tas de gravats sur lesquels les pompiers s'affairaient pour essayer de sauver d'éventuels rescapés. Omar expliqua aux pompiers et aux policiers qu'il habitait ici, que quand il était sorti ce matin, il y avait encore beaucoup de ses voisins dans l'immeuble. Comme les nerfs d'Omar craquaient complètement, il fut pris en charge par une équipe de secours. Dans la salle d'attente de l'hôpital où on l'examinait, Omar vit sur une chaîne d'info la conférence de presse de l'équipe de la mairie et il eut des envies de meurtre. Une grande bourgeoise qui se présenta comme l'adjointe au maire en charge du logement à Marseille s'exprimait devant une marée de micros.
Ce drame a été causé par les fortes pluies. Le bâtiment était en bon état et entretenu. Il n'a jamais été insalubre et les travaux ont toujours été réalisés par les copropriétaires.
Puis ce fut au tour du maire de s'exprimer, qui lui aussi accusa la pluie d'être responsable de l'écroulement. Il ne mentionna pas l'immeuble à côté de celui d'Omar, qui était la propriété de la ville de Marseille, puisqu'il y a 10 ans, celle-ci l'avait préempté et laissé pourrir. Il fustigea les opposants à la mairie, qui, pour des raisons politiciennes, tentait d'exploiter ce drame et conclut son discours ainsi.
La ville de Marseille a répondu immédiatement à cette catastrophe. La mobilisation a été immédiate. Quand effectivement l'aide que nous avons pu apporter aux familles, le respect que l'on doit aux défunts, nous l'avons fait immédiatement et nous avons immédiatement tout assumé, bien entendu. Par conséquent, quelques critiques sont inexactes. J'ai reçu celles et ceux qui me l'ont demandé. Cet événement me hante et que j'y pense sans arrêt. Moi, je ne me suis pas consacré à l'art de la parole. Je n'ai pas voulu parler pour polémiquer. Nous avons été, bien entendu, tous mobilisés pour apporter aide et assistance à ceux qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, alors nous faisons d'un commun accord la ville, la métropole, l'État, le maximum de choses. Un, pour reloger ceux qui en ont besoin et le plus vite possible, mais dans de bonnes conditions.
De pensées désordonnées se bousculaient dans la tête d'Omar. Il pensa à ses voisins. Il revit leurs visages. Il pense à sa collection unique de disques vinyles, de blues, qu'il avait mis toute sa vie à trouver. Tout est poussière maintenant. Il a honte de penser à ses disques, alors que peut-être un de ses voisins essaye de survivre en espérant que les secouristes le retrouvent vite, enfoui dans une poche d'air sous des tonnes de gravats. Omar cache ses yeux et se met à pleurer de rage et de désespoir. Il a envie de mourir. Mais les mots dont il s'occupe ont besoin de lui. Après une semaine de déblaiement des débris, le nombre des victimes s'élève à 8. Taher, Simone, Fabien, Shérif, Julien, Niassé, Ouloumé et Marie-Emmanuelle. 8 victimes, toutes pauvres, et de nationalités différentes, à l'image de ce Marseille que le maire et sa clique d'incompétents méprisent. Depuis, tous les immeubles insalubres sur la portion de la rue d'Aubagne qui va de la rue Jean-Roch à la rue Estelle ont été évacués. Les habitants de ces immeubles ont dû tout laisser et ont été relogés dans des hébergements de fortune, bien loin du centre-ville.
C'était You Get Move, une pièce radiophonique de Olivier Maltenti. Création du collectif Katibur avec la participation de l'Île de la Ligne. Enregistrée en septembre 2020 à La Ruche, Art Sud. Direction artistique et composition musicale, Oliver Knight, avec la complicité de Éric Lecoin pour la mise en onde. Avec Elisabeth Moreau, Carole Pia, François Billard, Catherine Cambréas, Sylvie Beaujard, Mathieu Veil et Olivier Maltenti. La musique du générique est de Denis Chauvet ainsi que le morceau Fort Saint-Vincent. Musique additionnelle, Mississippi, Fred McDowell.
Logement à Marseille, dans la cité phocéenne, où plus de la moitié des immeubles datent d'avant 1949. L'insalubrité est dans une ampleur rare. En 2016, les habitants du Grand Saint-Barthélemy vivent au rythme du chantier de la rocade L2 qui traverse leur quartier. Les améliorations de leur cadre de vie avec espace vert et plein sportif pourraient être retardées par un gros tuyau d'adduction d'eau dont personne ne veut payer les travaux de déplacement. Nous avons été invités par Sid, aujourd'hui décédé, interviewé par Snoussi Arslan, prise de sang, Kamar Idir.
Bonjour Sid.
Bonjour.
Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire justement qui tu es et un peu ton parcours de lutte jusqu'à aujourd'hui. Tu nous racontes un peu tout ça, ou comment tu t'es inscrit dans la lutte et tout ça.
Ben voilà, aujourd'hui je suis association des locataires, ici dans le Grand Saint-Barthélemy, Busserine Picon et ses environs. C'est une structure qui défend les locataires et consommation et l'habitation. J'ai aussi une autre casquette bien avant celle-là. Je suis toujours animateur du comité chômeurs et précaires des quartiers nord. Donc on s'occupait aussi du logement, du social. On n'assiste pas les gens, on les accompagne dans les démarches administratives. Ou bien que ça soit dans les démarches, je dirais, juridiques, plus ou moins. Voilà. Et ces derniers temps, ça fait depuis 3 ans, je travaille dans une association qui s'appelle l'Agence pour le développement des quartiers populaires, qui est une structure sur le mal logement. Le mal logement, bien avant qu'il se passe ce qui s'est passé ici à Marseille. Je m'occupe, ça veut dire que j'accompagne les gens quand ils ont des insalubrités chez eux, que le bailleur il veut rien faire. Donc j'interviens. Donc je vous avais même proposé de regarder le site. Vous allez voir des trucs où vous allez halluciner, qui existent maintenant sur Marseille. Et c'est des bailleurs sociaux, c'est même pas des privés. Donc vous allez voir ces vidéos. Et donc, cette association, elle est parrainée par la Fondation Abbé Pierre, toujours dans le mal-logement.
Justement, sur cette question du mal-logement, tu nous as dit plein de choses. Tu nous as dit que tu étais dans des associations, tu étais dans l'appareil syndical aussi. Aujourd'hui, est-ce que tu vois, à travers l'appareil syndical et à travers l'univers associatif, des débouchés réels qui permettent justement à ce que justement, la question et du mal-logement et de la précarité du logement, que ce soit sur la question du loyer et l'insalubrité, ces questions sont... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réponses qui sont concrètes, possiblement concrètes par ces plateformes-là ? Voilà.
Je ne dirais pas concrètes, mais je dirais de la poudre aux yeux. Ça veut dire quoi que... c'est comme ce qui se passe maintenant avec le nouveau président qu'on a, Macron. C'est de la poudre aux yeux. On vous donne d'un côté pour en reprendre de l'autre côté. Pour mieux, comme on dit ici à Marseille, vous entuber. Donc, on a coupé les ailes aux associations. Moi, je vous dis un exemple. Moi, je suis une association ici sur le 13-14. Je suis une association de locataires, mais je peux aller plus loin. Hein. Je me suis bien occupé des gens qui habitent aussi bien à Marignane ou à Vitrolles, puisque c'est environ des Bouches-du-Rhône. Donc, je vous disais que j'ai des problèmes. Je vous donne des exemples. J'ai jamais eu de subvention parce que je les dérange. D'ailleurs, la politique de la ville qui était tenue par Madame Fructus m'a toujours mis des bâtons dans les roues et que quoique, en tant qu'association des locataires et dans le projet d'ANRU, normalement, j'ai droit à une petite... Je dis pas, c'est 1500 euros. Ça va vous faire rire. 1500 euros, c'est même pas... pour du papier ou des tracts. Et en plus, je veux dire que je les aide dans leur boulot, puisque je fais des réunions sur les projets en rue, je rassemble des gens, j'organise des trucs. Mais bon, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais plutôt pour les habitants, pour leur faire montrer qu'il faut se battre. Là, comme tout à l'heure vous m'avez dit, là on est vraiment en retard, plus de 3 ans de retard sur la rénovation. Que ce soit sur la L2, je vous donne un exemple, la L2, elle est terminée de partout elle est terminée, hein. Sauf ici à la Busserine, à Picon-Busserine, et c'est pas encore terminé, on nous a dit mois de juin, mois de mai, mois d'avril, on nous a dit janvier, regardez, c'est même pas encore terminé. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse, ils ont fait une montagne, je sais pas si vous allez, il y a un mur qu'ils ont monté au lieu de le faire souterrain. Donc, on a soi-disant ils appellent ça une plaine. Une plaine, mais une plaine de béton. Une plaine. Vous avez aussi le déboucheur où toutes les aérations de, comment on appelle ça, de gaz d'échappement sortent. Et vous avez sur le côté des bâtiments. Vous avez trois bâtiments. Vous avez trois bâtiments à la Benosse. Il y a trois bâtiments. L'aération, quand vous regardez le plan où vous allez sur place, vous allez voir toutes les fumées, ils en prennent plein la gueule. Mais, sauf que je ne peux pas intervenir là-bas, il y a une association déjà qui intervient là-bas. Donc, il connaît déjà, il a déjà vu l'installation qui est là-bas. Et en plus, ces bâtiments, ils sont dans un renforcement. Quand je dis dans un... Il faut aller voir, dans un renforcement. Ça veut dire que le jour où il y a beaucoup de gaz d'échappement, et qui a juste un peu d'air, et qui souffle de leur côté, ils en prendront plein la gueule. Et c'est là où on verra les maladies. Donc, il n'y a personne qui en a parlé. Moi, je suis intervenu, mais il n'y a rien qui s'est fait. On me dit toujours, tu cherches toujours la petite bête, sauf que c'est une réalité. Donc là, je pense qu'avec... je peux pas... Avec les partis qui vont se présenter, j'espère qu'on aura les Verts, et les Verts pourront au moins parler de ce problème-là, qui est un gros problème de santé. et de santé et de verdure, puisqu'on n'en a pas, c'est que du béton. Hein. Donc, on revient au point de départ dans la rénovation. On est vraiment en retard. Et l'OGIREM, ben, elle a tous les droits.
D'accord. Tu as dit dans ton intervention qu'effectivement, il y avait une dimension où les habitants devaient se battre contre là, cette situation. Est-ce que tu as souvenir qu'ici à la Busserine ou dans les quartiers dans lesquels tu interviens, il y a eu des prises de conscience sur la base, ça veut dire en fait des locataires qui, sur la base du fait de leur situation, ont décidé de mener des luttes sans effectivement l'encadrement qui peut être posé, qu'il soit syndical ou associatif, et donc du coup, de par leur propre fait, soient amenés à se responsabiliser sur ces questions et à mener la lutte contre les bailleurs, contre les agences immobilières, contre ces trucs-là. C'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as vu ce type de manifestations avoir lieu ici dans les quartiers ?
Si, si. Non, il faut être quand même juste. Il y a eu déjà ici, bien dans les années... Oh là là, je ne me rappelle plus. 79, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la Wari qui s'est fait tuer par les CRS. Donc, non, pas du tout, ici, à la Busserine. Donc, il y a eu déjà une lutte sur ça. Donc, la Busserine et Picon, c'est des quartiers où il y a eu des soulèvements, il y a eu des associations qui ont fait leur travail, et puis après, ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé, puisqu'on a donné les moyens aux associations de pouvoir... Il y avait beaucoup d'associations ici à Picon-Busserine. Donner les moyens aux associations pour pouvoir intervenir auprès des jeunes. Là, quand vous voyez ici dans ce quartier, presque à toutes les entrées, vous avez des guetteurs. Mais moi, ces guetteurs-là, moi, j'en veux pas aux jeunes, là. Les jeunes, là. C'est la police qui fait pas son travail. Mais c'est même pas la police qui fait pas son travail. C'est l'État qui ne fait pas son travail. Parce que si on n'aurait pas enlevé les subventions... aux associations, les associations pourraient s'occuper de ces jeunes-là au lieu qu'ils foutent rien, leur apprendre à les éduquer, voilà. Là, on ne donne pas les moyens aux associations, c'est un truc voulu. Moi, à mon avis, c'est un truc voulu. En plus, quand vous voyez des dealers qui bloquent les rues, qui font comme s'ils étaient chez eux tous les soirs ici, à la Busserine, c'est le Bronx. Vous avez les guetteurs. Donc, vous voyez, si l'État, elle voulait, elle pourrait faire beaucoup de choses. Sauf qu'on a enlevé les moyens aux associations. En plus, il y a un truc qui se passe. Les socialistes, j'ai rien contre... Moi, je suis dans aucun parti. Moi, je suis plutôt syndiqué. Même si on peut dire qu'un syndicat, il fait aussi de la politique. Hein. Quand vous prenez les socialistes ou les communistes ou bien... je veux dire... LR ou les Républicains. Alors maintenant, leur cheval de bataille, ça s'appelle communitarisme. Ça veut dire, là, on est en train de... Une population, on est en train de la marquer en disant, ah, attention, demain, vous allez avoir des minerais, vous allez avoir des trucs. Moi, je connais beaucoup de musulmans. Moi-même, je suis musulman. Mais aller jusqu'à ce point-là, il faut arrêter. Et donc, quand vous prenez Ravier, son cheval de bataille, c'est dire, voilà, dans les quartiers, on a monopolisé, ou vous prenez Marine Le Pen qui dit, oui, il faut faire attention aux comment on appelle ça, aux islamistes. Je suis désolé, on ne devrait même pas dire des islamistes, on devrait dire plutôt des terroristes, des assassins, mais pas des islamistes. L'islam, il ne dit pas ça. Ça, c'est une. Après, dans ces quartiers, les socialistes ont perdu la main. Tous les partis politiques ont perdu la main parce qu'ils ont laissé tomber les quartiers. Ils ont laissé tomber les quartiers. Ils ont pensé qu'à leur propre denier. Ça veut dire la place, voilà, le fauteuil.
Justement, sur cette question de fauteuil et de place, il y a une dimension très géographique que tu as mis en avant sur la territorialisation des assos. Toi, tu ne pouvais pas intervenir dans le quartier à côté parce qu'il y avait déjà une assos. Et tu dis à un moment donné qu'effectivement, les assos seraient la solution au problème effectivement de l'abandon social, si on comprend bien. Ne penses-tu pas... Alors, deux questions. La première, c'est s'il y a une territorialisation d'assos, c'est qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a, il y a une mise en concurrence d'associations qui est voulue par l'État ou non, mais qu'il y a une mise en concurrence des associations entre elles. Et deuxièmement, la deuxième question que je me posais, c'était de dire, ben en fait, s'il y a un délaissement en fait, voulu par l'État ou par la politique de l'État, c'est que ça coûte moins cher de laisser gestionner le problème social par, par la question entre guillemets communautariste elle-même que justement de fournir des sous à une assoce. Donc du coup, c'est parce que c'est ça en fait.
Mais moi, je suis pas trop d'accord de dire fournir. L'argent que l'État donne à des associations, c'est l'argent des citoyens. C'est pas l'argent de leur propre poche qui sort. Mmh. Donc normalement, cet argent, elle doit être gérée. Je vous donne des exemples, des cours du soir pour les enfants. Je dis pas que c'est les associations, mais d'être à côté du citoyen et à côté des quartiers populaires.
Donc faire le travail de l'État, bon.
Je dirais pas ça, c'est donner plus ou moins, oui, l'État, parce qu'elle est absente, oui, elle est absente. Vous prenez, je vous donne un exemple, et je peux vous le prouver. Je suis au 20 rue de Lyon, je tiens une permanence du comité chômeur et précaire. D'accord. Des assistantes sociales en face de la mairie ou du carré à l'Estac m'envoient des gens pour que je m'occupe d'eux. Ça vous va? Oui. Pourtant, je suis rien, je suis bénévole. Bon, c'est vrai que je connais quelques gens, je peux, quand une personne vient, qu'elle a une dette, normalement, c'est pas à moi de le faire. C'est une assistante sociale, elle est payée pour ça. Sauf que j'ai discuté avec des assistantes sociales, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les connaissances. Moi, je connais un peu des gens, je peux aller... je sais où aller taper, où aller demander.
Tu as posé un concept tout à l'heure, tu as dit, enfin ce que j'en ai compris, c'est que l'association elle a pour but aussi de poser en fait le fait par rapport aux luttes des années 70, où effectivement avec l'assassinat du jeune, et donc du coup effectivement l'arrivée de l'univers associatif, il a permis l'apaisement du conflit social. Est-ce que c'est le rôle de l'association d'apaiser le conflit social?
Normalement non. Normalement, c'est l'État qui devrait être là. C'est des éducateurs d'État, formés par l'État, des animateurs d'État. Sauf qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc, nous, on ne peut pas... je vous donne un exemple. Oui, c'est vrai que ce n'est pas à moi. Mais le but, moi, je vous donne un exemple de mon association. Mon association, ce n'est pas d'assister les gens. Moi, mon...
C'est les encadrer.
Non, c'est même pas les encadrer, les accompagner, leur donner les outils pour qu'ils puissent se défendre, comme un syndicat. Les orienter, leur donner des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes se défendre. Mmh. C'est-à-dire que demain, il ne vient pas taper et me voir moi pour un petit problème qu'il a, qu'il peut le résoudre lui-même en sachant où aller ou taper pour pouvoir se défendre. En même temps... essayer de donner la main à une autre personne, s'il rencontre une autre personne qui est dans une difficulté, lui dire son parcours et essayer de l'aider. Donc, c'est plus l'association ici, elle est plus là pour réveiller les consciences. Attention, y a une lutte qui s'est produite à Herbel, dont j'étais le premier. C'est sur la légionellose. J'étais, moi et Fatih de la Fondation Abbé Pierre, le directeur régional. C'est nous qu'on a commencé la lutte là-bas. Et puis après, j'ai mis d'autres collègues qui continuent. En fait, moi, mon association à moi, c'était de regrouper les associations, parce qu'ils n'étaient pas en accord là-bas, sur Herbel. Une fois qu'ils sont regroupés et qu'ils puissent eux-mêmes se défendre, moi, je me retire. Mmh. Voilà, le but, c'est avec l'agence de développement des quartiers populaires. Hein. Mmh. C'est plus avec l'association des locataires. Hein. C'est... L'Agence pour le développement des quartiers populaires, c'est une association qui est en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre. Voilà, donc on a intervenu sur Herbel, et puis vous voyez en ce moment où ça en est, quoi. Ça bouge, il y a eu des décès, au départ l'ARS elle disait il n'y a rien. Or maintenant, tout le monde accuse l'autre sur Herbel. Tout le monde accuse l'autre, et le bailleur, c'est l'OGIREM, Unicil, et... oh là là, un bailleur le plus pourri de tous les bailleurs de France. Foncia. Foncia et un autre encore. Attends. Non. Oh là 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 là. Il va me venir le nom. C'est arménien. Oh là là, j'ai oublié. Attends. Oh là là. Enfin, c'était eux le syndic. C'était eux le syndic, parce que Herbel, c'est une ville. C'était eux le syndic. Donc, ils ont laissé la situation pourrir. Pourrissement. Donc, la preuve, maintenant, les tuyaux, ils explosent. C'est hallucinant. À Herbel, il faut voir pour y croire. Donc, maintenant que c'est passé grâce... C'est pour ça, tout à l'heure, il faut rendre quand même... quand j'ai lutté sur Herbel, j'ai fait intervenir, parce que moi, quand je lutte quelque part, tout seul, je ne peux pas. Donc, je fais intervenir... Oui, de la force. La force, c'est quoi? Les médias. Ça veut dire les journalistes, les journaux, la télé, ou les politiques. Quand je dis les politiques, ils sont là, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour venir nous défendre. Donc, comme moi, je fais partie d'aucun parti, mais je suis plus de gauche, c'est naturel. Il n'y a pas photo ou les verts ou ce que tu veux, mais je ne suis pas de droite, hein, pas du tout. Hein. J'ai voulu faire intervenir un élu de la République qui était PC, du Parti communiste. Je me suis déplacé jusqu'à... en dehors de Marseille, jusqu'à Martigues, le Rouquin. Donc j'ai commencé à parler avec lui, je lui ai expliqué tout. Il m'a dit « Oui, vous comprenez, on va essayer ». J'ai dit « Mais là, il y a urgence, il y a eu un décès. » Personne n'est venu. Je suis parti interpeller Mélenchon. C'est pour ça que Mélenchon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, c'est le seul que j'ai trouvé. Il est venu, et c'est grâce à lui que maintenant ça a bougé. Il fallait quelqu'un pour faire bouger les trucs. Et je te garantis que ça bouge. Maintenant, tout le monde accuse l'autre. Le préfet accuse l'ARS, l'ARS accuse la mairie accuse le bailleur. Tout le monde se jette la balle. Et c'est encore en procédure. Hein. C'est pas terminé.
En parlant un peu effectivement, la lutte de Herbel, c'était, on avait eu des échos, nous, en ville, cette question. Mais nous, on a connu aussi une lutte dans laquelle on a couvert un peu, c'est le Parcoureau. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire du
Parcoureau. J'y habitais, j'ai grandi au Parcoureau.
Au Parcoureau, effectivement, tu avais un immeuble qui a été occupé par des Guinéens, des sans-papiers guinéens pendant, je crois... peut-être 7 mois avec des anglophones d'Afrique de l'Ouest et tout ça. Et lors de démantèlement de l'occupation de l'immeuble dans lequel ils vivaient, et il y a eu trois compagnies de CRS qui sont venues, tout carnage, les gosses dans la rue, enfin bref, comme d'habitude. Et justement, nous, quand on était sur place, la première question qu'on s'était dit, c'est effectivement, pour quelles raisons, et fait tout l'arsenal associatif et l'arsenal syndical ou politique n'était pas là dans ce contexte-là. Et comment, justement, comment se privilégie une lutte par rapport à une autre et sur quelle base, en fait?
Alors, Corot, je connais très très bien. Puisque Corot, j'ai ouvert les yeux à Corot. J'habitais là-bas, c'était résidence par Corot. Et Corot, au départ, quand j'y habitais, on était, les années 64, hein, on était, 2 familles maghrébines, pas plus. Il n'y avait que des peignoirs. Il n'y avait pas de... C'est à partir des années où ils ont fait venir la main-d'œuvre du bled. C'est les années, je crois, 70. Ils ont fait venir de la main-d'œuvre. Sauf que là, moi, je reproche une chose à l'État. Et je vais faire une parenthèse, je vais vous raconter quelque chose. Je vous avais dit que je faisais partie du conseil d'administration de l'OGIREM. Tout en parlant avec l'OGIREM et les autres associations, je leur ai dit, moi, à mon avis, à moi, en tant que personne qui habitait dans des quartiers populaires, il faudrait, dans les cités, mélanger les personnes. C'est-à-dire, il faut arrêter de mettre des Arabes ensemble, des Comoriens ensemble. Je dis, moi, le matin, je voudrais bien voir un Jean, un Fang, je ne sais pas, moi... Une communauté, je veux dire, une mosaïque mélangée. Pourquoi? Parce que quand on a fait venir ces gens-là, moi je l'ai vu avec mes yeux, on a fait venir des gens des montagnes. Il y avait un jardin devant. Les gens, là, ils tuaient le mouton dehors. Ça ne dérangeait personne, puisque tout le monde croyait qu'ils étaient au pays. Ça veut dire que si demain on te met quelqu'un qui est différent de toi, tu vas essayer de ne pas choquer ton voisin, Tu vas essayer de pas... est-ce que tu comprends ce que je veux expliquer ? Là, non. Là, il faut... Je vous donne un exemple. On va pas loin. On va dans un quartier où je suis parti les aider, au Rosier. Au Rosier, c'est les Comores. Je suis pas raciste, hein. Attention, moi-même, je suis maghrébin. Je suis pas... si vous mettez des communautés, ils croient qu'ils sont encore au pays. Voilà. Ils croient qu'ils sont encore au pays. Maintenant, si vous mélangez... Et on dit oui, il faut, j'aime pas le mot intégrer. Hein. Oui, il faut, mais il faut leur donner les moyens.
Ce serait un travail d'assimilation
Pas assimilation, je veux dire, un respect de. Pour eux, c'est normal. Moi je les comprends. Quand vous allez au Rosier, pour eux, c'est normal. Ils sortent le matin, ils voient un Comorien, ça parle, c'est le Comore. Voilà. Vous prenez des quartiers, on a fait ça exprès. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les communistes, le Front National est le bébé du Parti Socialiste. Il est le bébé du Parti Socialiste. Et je le dis et je le crie fort. C'est grâce à eux, c'est quand ils ont fait venir les populations immigrées, on les a cloîtrés dans des quartiers. On les a cloîtrés. Et j'avais pour les élections avec Meghini, je crois. Et j'ai voulu intervenir pour les aider. On m'a dit, c'est pas la peine, on est là, c'est pas la peine que tu interviennes, on a nos propres structures. En plus, le problème qu'il y a, c'est que je dis pas que les Comoriens, parce que moi je travaille avec des Comoriens, je travaille avec tout le monde, sauf que les Comoriens, dans leur germe, dans leur façon de vivre, c'est... je dis pas qu'ils sont tribales. Ils sont, on pourrait dire le mot qui est communautaire. Mais sauf qu'ils ne le montrent pas. Non, c'est vrai, ils sont communautaires, mais sauf qu'ils ne le montrent pas. Et en plus, ils le font involontairement. Involontairement parce que vous avez des gens, vous prenez Saïd Amada. Voilà. Quand, avant de se présenter, il est venu ici à la mosquée de la Busserine, il n'est jamais venu. Je l'ai invité ici, dans ce local, parce qu'il est représentant de la République pour intervenir sur la L2. Il est venu, et il n'est jamais revenu pour avoir une réunion avec le maire, avec Rachid Attir, avec le maire et tout, et jamais rien. Diviser pour mieux régner, c'est l'État qui veut tout ça, c'est tout. On a des gens, des voleurs au col blanc au-dessus. Eux, on ne voit pas ce qu'ils font. Par contre, si vous ou moi, on va voler un bonbon, direct, on va nous arrêter. Mais eux, quand vous prenez des gens, on va pas loin, Sarkozy. Quand vous voyez ce qu'il a fait en Libye et ce qu'il a pris comme argent, jusqu'à maintenant, il est dehors. Et peut-être que même, il passera pas au tribunal jusqu'à sa mort, hein. Voilà, avec les recours et tout. Parce qu'ils ont les moyens. Sauf que vous ou moi, on passera directement. Hein. Voilà.
Est-ce que, alors que ce soit à la Busserine ou ailleurs, y a-t-il des associations justement communautaires qui sont le produit de l'affinitarisme communautaire ? Soit t'as les Algériens, ou là t'as les musulmans, ou là des trucs comme ça. Et si ça existe, comment vous coexistez avec ce type d'associations ?
Alors, je vais vous dire, pour les Algériens, mais je parle pour... normalement, pour tous les Arabes, j'englobe tout le monde, les Maghrébins et tout. On s'est mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Stop, ça s'arrête là. Il y a pas... C'est celui qui vous dira qu'il y a des Algériens qui se sont mis ensemble, qui se sont regroupés, c'est faux. Moi, je le confirme et je le... Parce qu'on n'est pas d'accord. Aucun n'est d'accord. D'ailleurs, on ne va pas loin. Regardez ce qui se passe en Algérie. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Comment vous voulez faire nous, on ne sera jamais communautaire. Là, ceux qui disent qu'on est communautaire, c'est Marine Le Pen. Pourquoi ? C'est les gens qui ont fait l'Algérie, la guerre d'Algérie, c'est les gens l'OAS, ou des... Ceux-là, on les a oubliés. Ou des pieds noirs. Des pieds noirs. Voilà. Mais sinon, nous, on n'est pas communautaire. On est divisés. Le jour où on sera la main dans la main... D'ailleurs, j'ai voulu créer une association... je me suis présenté aussi comme député algérien. Donc je suis... Non, je me suis présenté avec un escroc. Malheureusement... Oui, Sami Chabna. Je me suis présenté et normalement je suis élu. Sauf que j'ai aucun papier qui le prouve. J'ai juste une photo. Je vous parle sérieux. J'ai les affiches, c'est tout. Je suis élu. Oui, il m'avait averti, c'est vrai. Mais moi, mon but à moi, c'était pas pour siéger. Moi, mon but à moi, c'était pour créer une association qui regrouperait les franco-algériens qui pourraient avoir aussi bien... Puisque vous allez en Algérie, vous êtes un immigré. Vous venez en France, vous êtes un immigré, même si vous êtes français. Hein. Donc, c'est une association pour essayer de faire le lien entre les deux pays, pour avoir aussi bien les droits ici pour pouvoir se défendre. J'allais même vous faire, je vais vous faire rire, hein, j'allais même revenir aux accords d'Évian. Parce que les accords d'Évian, il y a beaucoup de gens qui ont oublié, mais la France a beaucoup raboté les accords d'Évian. On a beaucoup de droits qui ont été spoliés. Donc j'allais même faire aller à la Cour européenne, si j'aurais eu cette structure, évidemment. Ouais. Sauf que Samir Chebna, il mange aussi bien avec les gens ici, puisqu'il était avec, Guérini. Ouais. J'ai été avec lui au bureau de Guérini, c'est son ami. Guérini, il était élu par les Chibéni de là-bas, grâce à Samir Chebna. Ouais. Voilà, et Chebna, quand la première fois qu'il est venu en France, il était clandestin, il dormait à la radio. C'était moi, je dis pas, je me vante pas, qui lui a appris à parler dans un micro. Oui, Sid. J'étais technicien, animateur, régisseur, c'est moi qui lui ai appris à parler dans un micro. On l'a appelé l'envoyé spécial, c'est grâce à moi. Vous savez pourquoi ? C'était en rigolant, puisqu'on avait une valise à Radio Gazelle. Et il allait à la Foire de Marseille. Et moi, je lui ai dit, tu as un envoyé spécial. Alors, il disait, Anden, ici, Samir Chebna, envoyé spécial, Marseilla, le truc. Donc, il a pris ça. Lui, il a pris ça en compte. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a été ici en France et qui, en Algérie, il a de sa famille, je crois, du côté de sa mère, Boumerza. C'était un ancien ministre. Donc, on en revient. Moi, je vous dis, les élections algériennes, vous aviez... le parti que je représentais, le Moustakbel, le parti de l'avenir, avec le FLN, pourtant, qu'ils étaient concurrents. Ils discutaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Donc, le RND, pareil. Moi, je vous le dis. Le RND, pareil. J'ai été dégoûté. Quand j'ai attrapé le consul qui a été viré, je lui ai dit, mais attendez, je suis dans la liste. Et j'ai même pas un document qui prouve que je suis élu. Et il m'a dit, ah, mais moi, je peux rien.
Justement, oui. Ici, il y a un brassage communautaire énorme dans la quartier de la Busserine. Ou dans les autres quartiers. Oui. Toi qui vis ici, mais aussi qui, justement, a une activité politique ici. Est-ce que les gens, dans les quartiers, est-ce que les gens votent, que ce soit pour les élections algériennes ou les élections françaises?
Alors, depuis les élections européennes, moi, en tant que structure ici, il y a beaucoup de gens qui ne votaient pas et qui n'étaient même pas inscrits. Donc moi, quand je reçois des gens qui sont en difficulté et tout, la première chose que je leur dis, j'avais même imprimé des documents, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, je leur disais, écoutez, il faut, le vote, c'est un droit. Je ne leur disais pas de voter un tel ou un tel ou un tel. Je leur disais, votez ce que vous voulez à gauche, mais la droite mettez à côté. Votez ce qui vous intéresse. Voilà. Mais je ne disais pas un parti spécifique, quoi.
Et le fait, justement, qu'ils s'inscrivent dans cette démarche démocratique, est-ce que ça change la réalité dans laquelle ils sont? Est-ce qu'il y a eu des vrais, véritables changements qui sont de l'ordre matériel de leurs conditions?
Non, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas de prise. Là, ils sont passés en marche, ou que ce soit, je vous donne Vassal. Vous savez, je vais vous dire un truc. C'est du copinage. Ça veut dire que, moi, je vous le dis, hein, Vassal, ceux qui sont... On va pas loin. Moi, j'appelle Poupée Barbie. C'est comment elle s'appelle qui était responsable du GIP et qui était aussi responsable de la politique de la ville. Fructus. C'est pas ma tasse de thé. Mais je l'ai combattu même en tant que comité chômeur. Quand elle tenait à l'époque avec Madame Dindon HNP. Et je veux dire que vous veniez, voilà, pour les élections, par exemple, si vous êtes avec elle, on vous donne pour votre association, voilà. J'avais un autre exemple pour les partis socialistes. À l'époque, c'était... comment elle s'appelle? C'est pas une voleuse. Hein. Après, je vais vous raconter son histoire. Qui est passée au tribunal et tout. La moitié du porc, il appartient à son père.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule. À qui ce soit que je m'agresse, je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu les pouces mégots et les nez de beaux, les ringards, les folk, les journaleux. Qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leurs torchons que je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux, et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer le bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Je dois dire celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de crasse, tous les systèmes sont dégueulasses. Je veux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades, gueuler contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.